17h, 18h, les grands témoins avec Nasser Khétan sur Beurre FM.
Merci de nous retrouver, grands témoins sur Beurre FM, 17h, 18h, c'est votre émission. Et aujourd'hui, un grand témoin exceptionnel, Belkacem Lounès. Merci d'être là, Belkacem Lounès.
Bonjour Nasser.
Bienvenue.
Merci pour ton invitation.
Alors, vous êtes professeur d'économie à Grenoble. Vous êtes secrétaire général du Congrès mondial Amazir. Donc, on va beaucoup parler pendant cette heure-là du Congrès mondial Amazir, de sa nature, de sa constitution, de ses objectifs, de son fonctionnement et de ses réalisations et peut-être de ses acquis. Vous nous direz ça dans un instant. Vous êtes expert à l'ONU et à l'Union africaine sur les questions des droits des peuples autochtones. Vous êtes au passage aussi président de l'association Amazir de Grenoble. Vous nous en parlerez aussi. On a une très grosse radio à Grenoble. J'en profite pour dire bonjour aux Grenoblois qui nous connaissent depuis très longtemps. Et donc, vous êtes de Grenoble. Donc, je disais à l'instant, vous êtes aussi expert à l'ONU et à l'Union africaine sur les questions des droits des peuples autochtones. Il y a quelques jours, il y a même pas quelques semaines, il y a eu la nomination de 3 femmes autochtones à de hautes fonctions au Canada, au Chili et aux États-Unis. Au Canada, c'est la gouverneure du Canada qui a été nommée par Elizabeth II, puisque c'est le Commonwealth. C'est Elizabeth, la reine d'Angleterre, qui est un peu la chef du Canada. Et elle vient de nommer une femme qui est d'origine indienne. Elle est inuite, d'origine des Inuits. Ensuite, on a au Chili, la présidente de l'Assemblée constituante, Elsa Lincoln, qui elle est d'origine indienne, Mapuche. Et puis, on a aussi aux États-Unis la secrétaire à l'intérieur, qui est aussi d'origine amérindienne. Qu'est-ce que ça vous inspire d'avoir la notion de femmes et de femmes d'origine autochtone, puisque vous êtes expert à l'ONU dans ces questions, et bien sûr tout de suite le lien aussi avec la mazérité et le Congrès mondial. Qu'est-ce que ça vous inspire, ces nominations?
D'abord, c'est une très bonne nouvelle et je suis très heureux de ces nominations qui constituent pour moi une reconnaissance non seulement pour ces femmes, pour leurs compétences, pour leur apport au combat des peuples autochtones. C'est une reconnaissance également aux droits de ces peuples, le peuple Inuit au Canada, le peuple Mapuche au Chili et dans toute l'Amérique latine, mais également, évidemment, toutes les nations indiennes aux États-Unis. Donc c'est un très bon pas. C'est un peu dans la continuité de ce combat des peuples autochtones qui n'est pas très très connu, ce combat-là, qui a commencé au début des années 80 avec un groupe de travail aux Nations Unies sur les droits des peuples autochtones et qui petit à petit a cheminé jusqu'à faire adopter par l'Assemblée générale des Nations Unies déclaration solennelle des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, qui a été votée par tous les États membres des Nations Unies, sauf 4, dont les États-Unis et le Canada, qui n'avaient pas voté à ce moment-là. Mais quelques années après, Obama a décidé d'adopter donc cette déclaration, et le Canada l'a également suivi. Donc aujourd'hui, tous les peuples, tous les États membres des Nations Unies ont adopté cette déclaration qui est un peu, on l'appelle aussi déclaration universelle des droits des peuples autochtones. C'est vraiment la Bible ou le Coran, ou en tout cas c'est quelque chose de fondamental pour les peuples autochtones, et c'est là qu'on trouve tous les droits fondamentaux des peuples autochtones en tant que droit individuel et surtout en tant que droit collectif.
Alors, c'est vrai que ces peuples autochtones, qu'on appelle aussi Premières Nations, on les appelle comme ça un peu en Amérique du Nord, aux États-Unis, mais on pourrait aussi les appeler comme ça ailleurs sur la planète. C'est les Premières Nations, et on viendra dans un instant aux Amazighs, et les Amazighs aussi sont d'une certaine façon les Premières Nations de l'Afrique du Nord, voire plus loin de l'Afrique, puisque l'amazirité est un concept culturel et non racial. On verra dans un instant. Ces Premières Nations, est-ce que c'est quoi? Est-ce que c'est un retour du balancier? Est-ce que c'est une restitution des droits? Est-ce que c'est une correction de ce qui s'est mal fait? Est-ce que c'est une injustice qu'on répare? Ça, c'est la première question. Et deuxième question, manifestement, toute cette reconnaissance ne vient pas en conflagration, en opposition, c'est pas une guerre contre l'État en place ou contre c'est quelque chose qui assure la cohésion de l'État en question. C'est pas quelque chose qui se singularise ou qui demande une scission ou quoi que ce soit. C'est deux questions.
Alors, la première, vous avez entièrement raison. Il s'agit d'une correction, d'une réparation. Et dans tous les rapports qui ont été faits aux Nations Unies et à l'Union africaine sur les questions des peuples relatives aux peuples autochtones, on parle de colonisation des peuples autochtones. C'est-à-dire que ce sont des peuples qui aujourd'hui souffrent d'une manière ou d'une autre, d'une forme, quelle qu'elle soit, de colonisation. Ils sont privés de leurs droits, et notamment de certains droits fondamentaux, comme par exemple le droit à la terre, le droit au territoire, le droit aux ressources naturelles également, qui sont vraiment des droits fondamentaux.
Alors au Canada, on reconnaît aux Indiens le droit de pêche dans tout le Canada. On leur reconnaît des choses comme par exemple la loterie, le loto, etc. Ils l'organisent eux-mêmes. On leur reconnaît un peu puisqu'ils sont chez eux partout. Il y a de façon très peut-être à la marge, mais on leur reconnaît un peu cette idée-là. Et au Brésil aussi, puisque aujourd'hui plus personne ne peut plus acheter des terres comme il veut, ne peut plus déforester comme il veut. Il y a un peu des lois qui se sont imposées sur la terre, en disant que cette terre appartient aussi aux Amérindiens. Donc ça évolue un petit peu, mais on est loin de
ça évolue. On est loin du compte. Vous vous êtes très bien renseigné. Ça évolue effectivement positivement. Mais on est quand même loin, parce qu'il y a encore des exactions, il y a encore des gens qui sont tués, par exemple au Brésil, parce que des membres de communautés autochtones qui s'opposent à la déforestation, qui s'opposent au brûlage des forêts pour justement les rendre cultivables. Donc il y a encore quand même beaucoup de choses à améliorer. Mais la déclaration sur le droit des peuples autochtones, justement, elle reconnaît ça. Elle ne dit pas que il ne faut pas exploiter les ressources naturelles, ni qu'il ne faut pas pêcher, ni quoi que ce soit, mais pour les non-autochtones. Mais elle dit que elle parle du consentement préalable libre et éclairé des peuples autochtones. Quand on leur reconnaît des droits sur un territoire, l'État ou une entreprise privée ne peut pas faire ce qu'elle veut sur ce territoire-là. Il faut qu'elle ait le consentement de ce peuple-là. Il négocie sur le fait de « je viens pêcher, je viens extraire tel ou tel minerai », mais on va discuter de « est-ce que c'est possible de le faire ?» et dans quelles conditions, c'est-à-dire par exemple, quelle est la part qui revient au peuple autochtone ou à la communauté autochtone de ce territoire-là. Donc, il y a des avancées. Alors, je dois dire que des pays comme le Canada, comme l'Australie, comme la Nouvelle-Zélande, comme les États-Unis d'Amérique, on peut les considérer comme, bien qu'ils aient été les derniers à adopter la déclaration sur les droits des peuples autochtones, c'est quand même eux qui sont les plus avancés dans le respect effectif des droits des peuples autochtones. Mais paradoxalement, en Afrique par exemple, ils ont voté en faveur de cette déclaration, mais dans les faits, elle est assez peu pratiquée, parce que les États africains jouent un peu sur les mots. Et donc j'enchaîne un peu avec la deuxième question. Cette reconnaissance des droits ne se traduit pas forcément. La singularisation, si, parce que un peuple, c'est quand même une culture, c'est une histoire,
c'est une altérité qu'il faut.
Absolument. Ça, c'est ça. On reconnaît même le droit de préserver son identité, non seulement son identité, mais ses institutions propres, y compris les institutions politiques propres de chaque peuple ou communauté autochtone. Mais il est vrai que la déclaration sur les droits des peuples autochtones, elle est claire, elle défend le droit à l'autodétermination des peuples, mais elle dit que ce droit à l'autodétermination ne signifie pas
scission
ou remise en cause de l'intégrité
de l'État national, en question, les États-Unis, le Canada,
absolument, absolument,
le Chili, l'Argentine, etc.
Tout à fait, mais il est quand même, il faut quand même insister sur le fait que ça, c'est une chose absolument indiscutable qui est écrite, mais ce qui pousse en fait les gens à la scission ou à se séparer, c'est aussi le fait que leurs droits qui sont inscrits, qui sont adoptés, qui sont ratifiés par les États, bien souvent sur le terrain, ils ne sont pas suivis d'effet. Donc vraiment, c'est une question finalement quand même d'État de droit. Parce que, je disais tout à l'heure, le Canada, les États-Unis, la Nouvelle-Zélande, l'Australie, c'est des États de droit. Donc, ils avancent dans la mise en œuvre de la déclaration. D'autres États, notamment en Afrique, tout le monde connaît un peu comment fonctionne l'Afrique. Et donc, malheureusement, ces droits-là sont vraiment formels et que dans la réalité, on trouve peu de choses de concret sur le terrain.
Alors, petite question un peu plus spécifique, on terminera avec ces nominations de ces trois femmes. Ce sont trois femmes. Est-ce que c'est anodin? Est-ce qu'on ne dit pas que lorsque les femmes sont un petit peu en gouvernance, il y a moins de violence, moins de guerre, plus de paix, plus de consensus? Donc, et puis, est-ce que, ça c'est la première question, et la deuxième, c'est les femmes, on le sait, dans toutes ces cultures immatérielles et ancestrales, sont porteuses de la tradition. Est-ce que c'est un hasard si ce sont des femmes qui on le sait, ont la culture, dominent les langues, transmettent les langues aux générations? Est-ce que c'est par hasard que ce soit trois femmes qui ont été nommées?
Pour moi, c'est vrai, ce n'est pas anodin. C'est vrai que dans toutes les cultures autochtones, qui sont des cultures, qui sont des cultures vraiment très attachées au terroir, et à l'identité, tout le monde sait, y compris chez les Amazirs, ce sont les femmes qui sont les gardiennes de la langue, de la culture, des traditions, etc. Et donc, c'est une reconnaissance des peuples autochtones au travers de cette symbolique-là. Du fait que c'est les femmes sont d'abord les principales défenseurs de ces identités-là. Donc je trouve là que c'est une, au travers de la nomination de ces femmes, c'est une reconnaissance un peu plus avancée des droits des peuples autochtones et de la promotion de ces droits. D'un autre côté, est-ce que les femmes, probablement les femmes autochtones, ont une manière de gouverner, peut-être, comme on utilise ce terme maintenant un peu partout, une manière plus douce de gouverner, un peu moins recours à des décisions arbitraires, mais moins de violence, etc. Et j'ai toujours espéré d'ailleurs, quand j'ai eu à voter moi-même pour une femme ou un homme, j'ai toujours eu cet espoir que les femmes gouvernent différemment et mieux que les hommes, et qu'elles ne soient pas, un peu trop phagocytées par les systèmes, de manière à continuer à gouverner de manière naturelle.
On reviendra dans un instant, parce qu'on va faire une petite interruption, on reviendra à ces femmes au cœur de l'Atlantide, et même avant les Atlantes, toutes ces femmes amazighes qui dominaient l'ensemble de l'Afrique du Nord. On revient dans un instant avec vous, Belkacem Nounès.
Les grands témoins reviennent dans un instant. 17h, 18h, les grands témoins avec Nasser Khétan sur Beurre FM.
Et oui, et Belkacem Lounis est notre grand témoin aujourd'hui, professeur d'économie à l'Université de Grenoble. Après avoir été une dizaine d'années président du Congrès mondial amazigh, il en est aujourd'hui le secrétaire général. Il est expert à l'ONU et à l'Union africaine sur les questions des droits des peuples autochtones. On parlait à l'instant, bien sûr, de la reconnaissance des peuples autochtones, de la nomination de ces femmes. Est-ce que on peut dire que l'amazirité, vous allez nous expliquer ce que c'est que les amazirs et ce que c'est que l'amazirité, est-ce qu'on peut l'intégrer dans cette histoire de peuple autochtone? Est-ce que on peut dire que les amazirs sont quelque part les premières nations d'une région qui va des Canaries jusqu'en Égypte, qui va du nord de l'Afrique du Nord peut-être jusqu'en Afrique centrale? Est-ce qu'on peut considérer que les amazirs, les berbères, ces premiers habitants d'Afrique du Nord, est-ce qu'on peut considérer que ce sont des peuples aussi, comme des premières nations, des peuples autochtones?
Il est certain qu'on les considère, c'est pas qu'on peut les considérer, mais on les considère déjà comme des peuples autochtones de ce sous-continent nord-africain, et effectivement qui englobe également le Sahara. Et ma nomination comme expert aux Nations Unies et à l'Union africaine, c'est en tant qu'Amazir aussi. Donc c'est une reconnaissance officielle de l'autochtonie des Amazirs en Afrique du Nord. Et les Nations Unies définissent un certain nombre de critères pour dire qui est autochtone, qui ne l'est pas.
Alors c'est le peuple Amazir, ce sont des milliers et des milliers d'années. Je crois que dans l'Iliade et l'Odyssée, lorsque Ulysse est débarqué à Homère dans la Berbérie orientale, qui est la Tunisie actuelle, déjà il rencontre des êtres qui s'expriment en borborygme, il ne comprend pas très bien, et c'est déjà des berbères. Donc c'est plusieurs milliers d'années.
Absolument, c'est des milliers d'années. Et puis récemment on a découvert l'existence des premiers hommes en Afrique du Nord, du côté de Marrakech. Donc ça témoigne quand même d'une ancienneté très très lointaine de la présence humaine dans cette région. Et puis on a cherché des origines ailleurs qu'en Afrique du Nord, aux berbères, aux amazirs, mais on ne les a jamais sérieusement trouvés.
On a invoqué les Vikings, on a invoqué le Yémen, on a invoqué l'Eurasie, on a invoqué, mais en fait on n'a pas de solution, et on sait que ils ont été là, ils sont là depuis des milliers d'années.
Absolument.
C'est une réalité.
Et donc il y a eu ensuite des bouquins qui ont été écrits, notamment Madame Hachid qui a écrit un monumental bouquin sur
Je recommande aux auditeurs.
Absolument. Et elle démontre qu'effectivement, non, les Amazirs n'ont pas d'autre origine que l'Afrique du Nord. Et comme on dit chez moi, même les pierres, elles en témoignent de tout cela. Et ces pierres se trouvent en Algérie, se trouvent au Maroc, se trouvent en Tunisie et dans le grand désert du Sahara. Donc les Amazirs sont le peuple autochtone de toute cette région-là. Et donc c'est incontestable. Et je crois que, encore une fois, je reviens peut-être à la question de tout à l'heure. Il faut probablement que les États, les gouvernements, ont vraiment à reconnaître cela comme une richesse et ne pas voir dans la diversité, dans cette différence-là, une menace. Et je crois que concevoir les choses comme ça, c'est concevoir les choses de mauvaise manière, et c'est cela qui crée les problèmes, parce que les peuples amazirs, le peuple ou les peuples amazirs, de tout temps sont quand même des gens avec qui on peut cohabiter en toute sérénité. Ils sont quand même connus pour leur hospitalité. Ce ne sont pas des peuples violents. Donc voilà, je pense.
Alors, amazir, quelle est la signification du mot amazir?
Alors amazir, j'ai l'habitude de dire que c'est l'appellation que se donnent les amazirs eux-mêmes, c'est berbère en langue amazir, en langue berbère d'origine, et ça veut dire l'homme libre ou l'homme noble. Et donc cette spécificité-là, cette singularité de peuple non arabe et pas forcément musulman en Afrique du Nord, il faut que les États les reconnaissent. Et cette diversité-là, encore une fois, c'est une richesse qu'il faut, il faut s'enorgueillir, il faut la protéger, il faut la promouvoir, parce que c'est le monde est divers. On ne peut pas être uniforme, et donc c'est par là que commence la paix.
Alors, et c'est extrêmement difficile, parce que on voit tous les problèmes actuels qu'on a dans cette région. On voit bien que les colonialismes, qu'ils soient français, anglais, allemands, belges, etc., ont fait des dégâts. Et derrière ces colonialismes-là, donc monter les États-nations et monter un petit peu des identités des États-nations et des peuples qui voulaient être disons souverains et recouvrer leur souveraineté. Et puis on a eu les post-indépendance avec des États, avec des gouvernances qui se sont alimentées au système politique des colons et des systèmes coloniaux, et on voit qu'ils se sont enfermés eux-mêmes dans une dimension très restrictive de ce que c'est que l'identité, et on a eu comme ça des fossés qui se sont installés, et c'est vrai que longtemps la masérité a été perçue comme une espèce de d'empêcheur de tourner en rond des idéologies bassiste, nationaliste, islamiste, etc. Alors que c'est une richesse et que c'est quelque chose qui était en devenir et en partage d'une diversité. Alors, comment aujourd'hui les choses peuvent avancer ?
Merci pour ce rappel. Effectivement, il est certain que d'une manière ou d'une autre, le colonialisme ou toute forme de colonisation se poursuit aujourd'hui à l'encontre des Amazighs, ceux-ci ne pourront que se révolter, et parce que c'est comme ça, on ne peut pas supporter en silence n'importe quelle forme de domination. Donc ce que vous dites est absolument vrai, et que ce schéma dominateur de la colonisation, il faut s'en défaire et considérer que les peuples, les personnes qui aujourd'hui peuplent ces régions-là, eh bien, on est frères en humanité, on est différents culturellement, linguistiquement, historiquement, etc. Mais on est frères en humanité et on doit se respecter.
Souvent, les gens, même lorsqu'ils ne parlent pas l'amazigh, lorsqu'ils parlent l'arabe ou ils sont, etc., ce sont des amazigh. C'est-à-dire qu'ils sont l'héritier de toutes ces populations. Donc, même lorsqu'ils parlent le français, l'anglais, lorsqu'ils parlent l'arabe, lorsqu'ils pratiquent telle ou telle religion, ils sont toujours amazigh, même s'ils ne sont pas amazirophones, s'ils ne sont pas berbérophones. Donc l'amazirité, elle est consubstantielle aux habitants de toute cette région. C'est pas une partie qui est cantonnée entre deux montagnes ou entre deux fleuves ou entre deux déserts. C'est pas ça. Il y a pas une guéguerre entre des gens qui seraient d'une origine ou d'une obédience X et puis d'autres. Ce sont les mêmes peuples qui, en fait, au fil du temps, il y a eu des sédiments, il y a eu différentes couches qui se sont superposées au niveau des colonisations et des civilisations, et des héritages phéniciens, romains, espagnols, turcs, etc., arabes, etc. Et donc, il n'y a aucune retenue pour assumer tous ces héritages, mais en fin de compte, l'identité amazigh, elle est là, elle est consubstantielle à ces habitants-là, et eux, en reniant cette identité-là, c'est comme s'ils se reniaient eux-mêmes, c'est une forme de haine de soi.
Tout à fait. Alors, absolument, vous avez entièrement raison, il faut que cette histoire-là, l'histoire de l'Afrique du Nord, elle soit correctement enseignée, pour justement à rappeler qui sont les Nord-Africains. Et effectivement, quand on regarde toutes les études sérieuses, on te dise que l'écrasante même majorité des habitants de cette région sont d'origine amazigh. Ça, d'une part. D'autre part, pour nous, ce n'est pas, encore une fois, une question raciale. C'est même si les peuples étaient différents, ce n'est pas un problème.
Les Amazighs, on l'a vu, il y a des types négroïdes, il y a des types eurasiens, il y a des types sinoïdes,
absolument.
Asiatiques.
Donc, les différences.
Il y a tous les types ethniques.
Absolument. Les différences ne sont pas un problème. Et moi, je suis partisan, comme disait, je ne sais plus comment il s'appelle, je ne retrouve pas son nom, il disait qu'il n'y a qu'une seule race, c'est la race humaine.
La race humaine, bien sûr.
Donc le reste, ce sont des différences culturel,
morphologique.
Oui, bon, après, même chez les Berbères eux-mêmes, chez les Kabyles, par exemple, il y a des différences morphologiques aussi. Mais voilà. Donc ce sont des histoires, ce sont des connaissances, ce sont des savoir-faire, ce sont des langues, ce sont des cultures. tout ça, c'est une richesse humaine et nous avons besoin de la préserver. Et tout à l'heure, vous disiez, c'est quoi la solution dans tout ça? Lorsque les gouvernements ne comprennent pas ça et combattent et restent dominés, inféodés à des idéologies sectaires, il reste le droit. Et notamment le droit international. Et c'est celui-là, nous...
Un droit international qui peut enjamber toutes les frilosités des États-nations, des États autoritaires. En fait, il faut passer par-dessus.
Absolument.
Toutes ces velléités un peu guerrières et meurtrières de certains États.
Et ce droit-là, il est international parce qu'il a été adopté sur des places internationales comme les Nations Unies ou l'Union africaine. Mais à partir du moment où les gens ne savent pas, peut-être pas beaucoup, mais à partir du moment où un État adopte, ratifie un instrument international, une convention, un pacte, un accord, etc. Ce droit-là devient du droit interne. Il faut qu'il soit intégré à la législation nationale. Donc, les États doivent simplement appliquer ce qu'ils adoptent au niveau international. Il faut qu'ils le fassent au niveau interne. Et nous, notre travail justement en tant qu'ONG, mais aussi en tant qu'expert international sur ces questions autochtones, eh bien, ce que nous faisons, c'est à chaque fois, nous travaillons par le fait de sensibiliser les gouvernements pour dire vous avez adopté des lois, enfin plutôt des textes internationaux, des instruments juridiques internationaux. Il vous reste à les appliquer.
Respectez-les. On se retrouve dans un instant.
Les grands témoins reviennent dans un instant. 17h, 18h, les grands témoins avec Nasser Khétan sur Beurre FM.
Oui, en compagnie de Bokrassem Lounès, secrétaire général du Congrès mondial Amazigh. Donc, on parlait à l'instant, donc, vous parliez de cette ONG qui est le Congrès mondial Amazigh. Donc, moi, j'aimerais que vous nous disiez d'abord qu'est-ce que le Congrès mondial Amazigh, son origine, il existe depuis quand? Je crois qu'il en existe deux d'ailleurs. Je sais pas s'il en a un, il y en a un ou deux. Mais donc, qu'est-ce que le Congrès mondial Amazigh? Il existe depuis quand et quels sont ses objectifs?
Alors, le Congrès mondial Amazigh existe depuis 1995. Son premier congrès a eu lieu en 1997 aux îles Canaries. L'idée, c'est d'abord, les Amazigh de tous les pays d'Afrique du Nord se sont rendus compte qu'ils étaient face aux mêmes problématiques.
Mais pas que aussi, même des Amazigh du monde entier.
Oui, oui, bien sûr. Mais avec effectivement beaucoup d'animateurs de l'extérieur d'ailleurs de l'Afrique du Nord. Donc les mêmes problématiques, chacun dans son coin. Il y a le droit international et on s'est dit, il faudrait peut-être qu'on crée quelque chose de commun qui puisse prendre en charge nos problématiques et utiliser le droit international et le faire rentrer dans les pays et faire pression sur les États pour qu'ils appliquent, pour qu'ils mettent en œuvre ce droit international qui nous est favorable. Donc c'est comme ça en fait la première idée, c'est à la fois un rassemblement des Amazigh, mais en même temps de faire sortir la question Amazigh des États-nations, du cadre des États-nations au niveau international.
C'est comme une ONG, c'est-à-dire une organisation non gouvernementale.
Absolument, c'est un statut, l'ONG non gouvernementale, et donc avec un travail que nous faisons principalement à 90% avec les Nations Unies, un peu avec l'Union africaine également, avec quelques relations également avec l'Union européenne. Mais c'est principalement ça. Les objectifs maintenant, c'est de plus en plus, c'est de faire respecter vraiment ce que les États ont adopté en termes de droit. Donc il y a des conventions internationales, des pactes, des accords, et nous produisons des rapports de manière très régulière. Et lorsque les États, par exemple, viennent devant différentes instances des Nations Unies pour présenter la situation des droits des femmes, droits des enfants, droits économiques, droits sociaux, droits culturels, droits politiques, etc., nous sommes là pour présenter des rapports alternatifs pour dire, voilà, de notre point de vue, ce qui se passe. Et donc, il y a ensuite des recommandations qui sont faites à l'État par les instances des Nations Unies pour dire voilà ce qu'il faut corriger et on se donne rendez-vous dans 2 ou 3 ans pour voir comment vous avez fait.
Ces rendez-vous-là, d'ailleurs, vous les organisez dans un pays Amazigh. Je crois que vous êtes réunis dans les îles Canaries, au Maroc, ailleurs. Je crois qu'il n'y a qu'en Algérie où vous n'êtes pas réunis.
Alors, ça, c'est nos congrès à nous. Mais là, je parlais tout à l'heure des rencontres qui ont lieu au sein des Nations Unies, où les États sont auditionnés. Donc, quand un État est auditionné, nous, on est là pour dire, donner, enfin, avoir une autre voie alternative pour dire, d'après nous, il se passe pas comme ça, il se passe telle et telle et telle chose.
Alors, vous, vos congrès, donc vos réunions à vous-même en tant que congrès mondial de la Mazire, je crois que c'est tous les 2 ans.
Maintenant, c'est tous les 3 ans.
Tous les 3 ans. Et vous êtes réunis dans différents pays. Je crois qu'il y a qu'en Algérie, vous n'êtes pas réunis.
Vous avez raison. Nous sommes réunis plusieurs fois au Maroc, en Tunisie 2 fois, aux îles Canaries, en France, en Espagne. Il n'y a que en Algérie.
Alors, comment expliquez-vous que, par exemple, puisqu'on parle de l'Algérie, que l'Algérie a reconnu Tamazight comme langue nationale et officielle? Donc aujourd'hui, c'est une, sur beaucoup de mairies, beaucoup d'endroits, c'est le tifinagh maintenant trône sur même les bus dans Alger, etc. Et comment vous expliquez cette reconnaissance de la langue et de la culture amazigh et l'enseignement de Tamazight, et en même temps le fait de ne pas vous autoriser à vous réunir? Comment on explique ça? C'est quoi? C'est la schizophrénie? C'est quoi?
Je sais pas du tout. Franchement, si vous avez l'occasion, il faudrait poser les questions aux responsables algériens. Tout ce que je sais, c'est que non seulement, moi je trouve que c'est un peu honteux en tout cas. J'ai rencontré une fois en 2008 le président de l'Assemblée populaire de la Wilaya de Tizi Ouzou pour lui dire c'est vous qui allez organiser le congrès. C'est vous qui allez accueillir les Amazigh du reste du monde. J'ai vu le président de la PUI de Gaïef de Béjaïa pour lui dire la même chose. Ils ont dit on va voir avec le gouvernement, avec le ministre de l'Intérieur, mais ils n'ont jamais donné suite. Nous avons même porté plainte contre le Wali de Tizi Ouzou qui ne voulait pas répondre à notre demande de réunion. Plusieurs fois, nous nous sommes retrouvés au commissariat uniquement parce que nous nous sommes réunis. Donc, franchement, je ne sais pas. En fait, je mets ça sur le dos de, bien qu'il y ait quelques petites avancées sur la langue amazigh, mais dans la réalité, il n'y a aucune volonté politique. Et à propos même de langue amazigh, je vois que cette année, son statut a régressé dans l'enseignement, dans l'éducation nationale algérienne. Donc, c'est une variable d'ajustement.
Oui, il y a même eu une tentative pour l'enlever de l'enseignement, et après le tollé qui s'est en suivi, il a été réintroduit.
Absolument. Donc, ce sont des choses que vraiment l'Algérie doit clarifier. Est-ce que cette partie de l'Algérie-là, est-ce qu'elle est vraiment acceptée ou pas? Mais visiblement, non. Donc, c'est ça qui fait que les gens continuent de se battre et, je dois dire, de se radicaliser également. Parce que c'est ça, quand vous refusez des droits qui sont des droits élémentaires et que ces droits sont soutenus par le droit international, si vous ne les respectez pas, eh bien,
alors, les gens... Alors justement, est-ce que le congrès amazigh tient un curseur? Est-ce que c'est une vigie sur des choses telles que l'enseignement de Tamazight, dans les îles Canaries, au Maroc, en Algérie, en Tunisie, au Niger, etc. Parce que c'est des langues, ou en Libye, parce que ce sont des endroits où la langue existe et même elle est même reconnue. Est-ce que vous donnez des préconisations, des remontrances? Est-ce que vous pointez du doigt des insuffisances pour dire attention, dans tel ou tel pays, l'enseignement ne se fait pas comme il devrait se faire? Il y a une discrimination de la langue amazigh par rapport à l'arabe ou par rapport à l'anglais ou par rapport au français. Est-ce que vous tenez un carnet de bord des discriminations et des assignations à résidence de la culture et de la langue amazigh?
Oui, absolument. On a une espèce d'observatoire, en particulier sur la question de la langue, dans tous les pays. Et nous arrivons en fait à faire plusieurs actions. Par exemple, on parle beaucoup d'Algérie, mais par exemple au Maroc, nous sommes en train de porter plainte contre le gouvernement marocain parce que la Mazighe est aussi officielle au Maroc. Il y a une loi organique qui dit que tous les documents officiels marocains doivent être écrits en arabe et en langue amazigh. Et en 2020, le gouvernement a adopté une nouvelle carte d'identité. Et cette carte d'identité est écrite uniquement en français et en arabe. Donc c'est une violation à la fois de la Constitution et de la loi organique marocaine. Donc on porte plainte, on écrit au gouvernement. Et bien entendu, nous portons plainte également au niveau des Nations Unies en disant, regardez, ils violent même leur propre, propre loi.
Est-ce que fort de cela, vous établissez des rapports? Et ces rapports, quelle est leur visibilité?
Alors, c'est une très bonne question. Nous établissons des rapports que nous soumettons aux Nations Unies. Les Nations Unies, ensuite, font des réclamations aux États pour dire, voilà ce que dit cette ONG, qu'est-ce que vous en dites, vous? Et donc, lorsque l'État répond, eh bien, ensuite, l'instance des Nations Unies dit non. Maintenant, il faut appliquer le droit. Donc, ça devient une observation des Nations Unies. Et donc, après, malheureusement, les États ne suivent pas toujours, même les observations, même les recommandations, même les injonctions des États ne sont pas toujours suivies des faits. Mais du coup, nous restons toujours, nous remettons un peu les choses à chaque fois sur la table pour dire aux Nations Unies, voilà où on en est. Et donc, il faut encore faire un appel à l'État pour qu'il puisse un peu respecter ses obligations internationales.
Alors, j'imagine qu'on vous met aussi des bâtons dans les roues, que c'est pas facile pour vous de travailler dans tous les pays. Et puis, plus récemment, on a vu en Algérie, on a vu l'arrestation de Camira Naïtid à son domicile, de Dra Ben Kedda, près de Tizi Ouzou. Pendant 3 jours, elle a disparu. Elle est en prison. Sa sœur aussi est en prison. Et le Congrès mondial amazir dénonce et condamne avec la plus grande vigueur l'arrestation et la détention arbitraire de Camira Naïtid et de sa sœur. Et donc, vous réclamez tout de suite sa libération. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette histoire? Pourquoi on a arrêté une, et je crois qu'elle est responsable des droits de l'homme au niveau africain. Elle est responsable du droit des femmes. Elle a un statut international.
Elle est membre d'une coalition de femmes autochtones au niveau mondial, effectivement. Elle est responsable régionale pour l'Association des populations des montagnes du monde pour l'Afrique du Nord. Et je sais que Camira Naïtid n'a pas disparu pendant 3 jours. Camira Naïtid a disparu pendant 8 jours, sans nouvelles. C'est-à-dire que il y a des policiers, effectivement, dans un commissariat d'Alger qui disaient qu'elle est chez nous, mais ce n'est que verbal. La première fois qu'on l'a vue, après le 24 août, jour de sa disparition, la première fois, c'était le 1er septembre devant le juge.
Alors, pourquoi on arrête cette femme qui est pacifique? En plus, voilà, on parlait des femmes en début d'émission. Pourquoi elle milite pour la reconnaissance de la culture algérienne quelque part? Qu'est-ce qui s'est passé?
Je sais pas. Là aussi, ça fait partie vraiment des choses qu'on a du mal à s'expliquer, parce que effectivement, c'est une femme qui travaille, qui est une défenseure des droits de l'homme. C'est une femme qui est pacifique, qui n'a jamais tenu ni appelé à n'importe quelle forme de violence ou d'insulte ou de quoi que ce soit. Donc il y a absolument rien, strictement rien à lui reprocher.
On parle d'atteinte à la société d'État, mais on n'a rien de concret.
Non seulement il n'y a rien de concret, mais on peut chercher. Moi, je la connais depuis 15 ans. Je suis absolument sûr et certain qu'on ne va absolument rien trouver, sauf à dire. Que de dire je suis kabyle ou bien je suis amazigh, c'est une atteinte à la sûreté de l'État. Parce que c'est arrivé avec le général Gaïd Salah qui est mort, porter le drapeau amazigh, c'est une atteinte à la sûreté de l'État et à l'unité nationale. Moi, je continuerai à dire je suis kabyle, je continuerai à dire je suis amazigh, je continuerai à porter le drapeau amazigh, parce que c'est comme ça, je suis comme ça.
Et rappelez-vous, Lala Fad Mansoumer, qui est une héroïne kabyle de la Kabylie, qu'est-ce qu'elle a dit lorsqu'elle a lutté contre le colonialisme français? Elle a dit dès qu'il restera un kabyle, les Français n'auront pas la paix. Et on peut pas accuser la Fad Mansoumer de revendiquer sa kabylité. Donc là, il y a quand même des choses, peut-être, il y a une restitution de la justice qui se fera. En tout cas, on aura l'occasion d'aborder ça dans une prochaine émission, je pense.
Non, mais il est certain que la justice se fera et nous sommes en train de faire le maximum de pression de l'extérieur pour qu'on la relâche parce que c'est une détention absolument arbitraire que rien ne justifie. La seule chose à faire, c'est qu'il faut la libérer immédiatement, comme il faut libérer d'ailleurs tous les autres détenus politiques kabyles, amazighs et algériens.
Voilà. En tout cas, on espère que tout ça rentrera dans un vaste mouvement de réconciliation parce qu'il n'y a pas d'autre issue que la paix, le consensus et puis le développement. Et peut-être que ces États-nations qui se sont enfermés dans des stratégies d'identité meurtrière, pour paraphraser Amin Maalouf, peut-être qu'ils reviendront peut-être à de meilleurs sentiments. Merci, Belkacem Lounès, d'avoir accepté notre invitation. Professeur d'économie à l'Université de Grenoble, secrétaire général du Congrès mondial amazigh et expert à l'ONU et à l'Union africaine sur les questions des droits des peuples autochtones. À très bientôt et on a été ravis de vous recevoir.
Merci beaucoup. Merci à vous.
Retrouvez les grands témoins tous les dimanches de 17h à 18h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.